que pas quelques bribes de tout, l'un après l'autre, mais de l'ensemble de ce que la Bible dit au sujet d'Israël. Que dit-elle? Elle dit d'abord que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et à sa manière, elle dit que Dieu ne pouvait pas rejeter son peuple. Il ne le pouvait pas. Pour quelle raison? Et la première, c'est que Dieu a juré ses promesses. Et que je vois mal Dieu devenant parjure en n'accomplissant pas ce qu'il avait promis. La Bible dit combien de fois que Dieu a promis un pays, une bénédiction, un rôle de missionnaire pour le monde entier à son peuple. Combien de fois est-il dit dans la Bible qu'il l'a promis? J'étais surpris quand j'ai fait le compte. Il l'a dit 51 fois. La Bible le dit 51 fois. La première fois où cela est dit, c'est dans Genèse 2, de façon très claire, et la promesse est « Je bénirai en toi et en ta postérité toutes les familles de la terre, ou tous les peuples », car c'est répété plusieurs fois. Et la dernière mention du fait que Dieu a juré ses promesses à Israël se trouve en Ézéchiel 47, où il est dit qu'il l'a juré la main levée, la manière la plus solennelle de jurer. À l'époque, et aujourd'hui encore, il me semble, dans bien des pays, je ne sais pas comment c'est ici, parce que je n'assiste pas au jurement, au jugement. Donc, la première raison pour laquelle Dieu ne pouvait pas accomplir ses, ne pas accomplir ses promesses et rejeter le peuple à qui il a fait des promesses inconditionnelles, ben, c'est que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Il l'a juré. Il ne revient pas dessus. J'aurais pu parler aussi, mais je n'ai pas l'intention de tout dire. Ah, il y a quand même. Oui, merci. J'ai cru tout à l'heure qu'il n'y avait plus l'horloge et que j'aurais de la peine à contrôler le temps que je vous demande pour cette réflexion, mais elle est là. C'est bien. Donc, Dieu ne se repent pas de ce qu'il a promis. Et un événement vient à côté de la Bible, mais en relation avec ce qu'elle dit, ce que les prophètes ont dit, c'est l'actualité. C'est l'histoire. Ce que les prophètes avaient promis, ce qu'ils avaient annoncé concernant la première venue de Jésus-Christ, du Messie, s'est accompli littéralement. Le lieu de sa naissance, même la date de sa naissance, quand on calcule les nombres que donne le livre de Daniel. La façon dont il fut rejeté, dont il a souffert, dont il a été mis à mort, la manière dont il a été mis à mort, la façon dont il est ressuscité, tout cela s'est accompli littéralement. Et il me semble qu'il n'est pas osé de dire que cela nous interdit de spiritualiser ce qui concerne sa nouvelle venue. Ou alors, comment comprendre? Je n'ai pas l'intention de vous citer toutes ces promesses, ce serait très long, parce qu'elles remplissent l'Écriture du début à la fin. Mais l'actualité, vous la connaissez en partie. Il y a eu le retour des premiers colons juifs rentrés de la dispersion et qui, dans les années 20, 1920, pas 2020, bien entendu, sont allés redonner au désert qui était devenu la terre promise à Israël la possibilité de refleurir. Et le désert a refleuri. Les prophètes l'avaient annoncé. Les habitants se sont revenus au, pas les Juifs, pas encore, une partie quand même, les colons dont j'ai parlé, et en 1923 en particulier, les voisins d'Égypte, d'Arabie Saoudite, du Liban, de Jordanie, voici que les Arabes sont arrivés, enfin une occasion de travailler, de gagner un peu d'argent, puisque il fallait des bras pour cultiver maintenant et pour poursuivre le relèvement, le renouveau de la terre devenue depuis si longtemps un désert et maintenant en train de refleurir grâce aux initiatives des colons. Ce qui a permis, plus tard, de parler de Palestiniens. Et les Palestiniens, c'était Israël. La Palestine, le nom de Palestine a été donné par les Romains au IIIe siècle de notre ère. Et voilà que cette Palestine, en train de refleurir, accueille des ouvriers, des gens heureux de trouver enfin du boulot. Que dire de la suite? Je pense que vous la connaissez, vous vous souvenez. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, en 1948, l'État d'Israël, inexistant depuis si longtemps, a été de nouveau proclamé. 48. Israël est de retour, il revit. À ce moment-là, bien entendu, tout le monde n'était pas ravi. Tout le monde n'était pas content. Et vous connaissez la suite. L'existence même d'une terre juive a été refusée par les voisins. Et il y a eu les guerres, vous les connaissez. La guerre de 50 et quelques, je ne sais plus exactement toutes les dates, je n'ai pas retenu, la guerre des 6 jours. Et puis, tout récemment, l'attaque du Hamas contre Israël. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Ça, c'est récent. Et cette semaine, pour comble, l'attaque de l'Iran. J'ai mentionné ces faits de l'histoire parce qu'ils sont en train de démontrer qu'effectivement, les temps de la fin annoncés par les prophètes sont en train de se réaliser littéralement. Quand on étudie la prophétie biblique, il y a des noms de pays qui reviennent régulièrement comme devant jouer un rôle lors de du dernier conflit de l'histoire qui est encore à venir, mais qui est peut-être proche. Et ces noms des pays, c'est en particulier, entre autres, mais surtout, la Turquie et l'Iran. Vous savez le rôle qu'ils jouent maintenant et la manière dont leur haine pour Israël est en train de s'amplifier. Israël est devenu par tout ce qui s'est passé depuis sa résurrection, la pierre pesante pour les nations dont a parlé Zacharie. Vous connaissez ce verset. Jérusalem, Israël deviendra une pierre pesante. Elle l'est. Et aujourd'hui, à la suite de ce qui s'est passé cette dernière semaine, le monde entier est en train de se poser des questions et tremble. On craint l'embrasement. Alors, vous êtes peut-être de ceux qui, comme moi, regrettent toutes les victimes, qui ne les regretteraient pas, que ce soit d'un côté ou d'un autre, mais le fait qu'Israël veut détruire le Hamas pour se mettre en sécurité inquiète le monde entier aujourd'hui. Tout cela est en train de préparer le dernier conflit de l'histoire, le grand conflit annoncé par les prophètes. Oh, c'est celui qui verra Israël dans la détresse, l'insécurité, quand le Christ finalement reviendra, le délivrera. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais je voudrais parler de ce dernier acte, en dire ce qui me semble, quelques points de ce qui me semble dit par les prophètes. Je citerai surtout deux références, je n'ai pas cité les précédentes, mais je voudrais comme introduction rappeler un verset que notre frère Maxence avait cité il y a quelque temps, c'était la dernière fois que c'était avec vous au culte, non pas par le Zoom, mais présent. Il avait cité le texte de Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Une fois de plus, je m'étais dit, c'est dommage qu'on le cite, qu'on se l'applique, c'est bien, c'est normal, mais sans dire quel était le premier des destinataires de cette parole. À qui Dieu est-il en train de parler quand il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » À qui ? À Israël. Alors que nous nous l'appliquions, pourquoi pas ? Nous pouvons dire que si Dieu a un projet tel pour son peuple, son projet serait-il moins bon, moins favorable ? Y aurait-il moins d'avenir, moins d'espérance pour son peuple composé de païens que nous sommes ? Nés d'Israël, indirectement. Ne l'oublions pas, mais quand même, bien sûr, nous avons le droit de nous l'appliquer. Mais, on le voit partout, cité, inscrit, à l'occasion d'une annonce de mariage, par exemple, ou parfois même d'un avis de décès. Oui, très bien, sauf que nous oublions. Et cela me paraît triste, peut-être tragique, que le texte concerne Israël. Un avenir et une espérance. C'est de ça que je voudrais maintenant parler aussi pendant un petit temps. Quel est l'avenir d'Israël? On n'en parle plus dans les églises, on n'en parle plus dans les écoles où nous, où l'on forme nos pasteurs, c'est tragique. Mais je pense que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre vous, n'ont pas oublié un enseignement ancien maintenant, hélas, mais sont convaincus qu'Israël un jour se convertira. Effectivement. Seulement, peu me semble, et j'ai été longtemps du nombre, disons-le autrement, beaucoup oublient ou n'ont jamais pris conscience du fait que la conversion d'Israël, que l'on pourrait appeler l'enfantement du résidu fidèle, vous saurez pourquoi je le dis ainsi dans un petit moment, traverse et fait de nombreuses et profondes souffrances. Israël doit souffrir de telle sorte que nous aurions même de la peine à l'imaginer de façon correcte. Et deux textes me sont venus à l'esprit alors que je lisais jeudi, je crois, Apocalypse 13, deux autres textes que j'ai mis assez bien de temps à mettre l'un en rapport avec l'autre et à comprendre vraiment. L'un de ces textes, c'est Zacharie 13, et l'autre, Ésaïe 66. Mais on y viendra dans un petit moment. Tout d'abord, quand même, le texte d'Apocalypse 13. Au verset 2, je lis d'une femme couronnée de 12 étoiles. Je lis qu'elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Pourquoi dis-je Israël? Parce que le chiffre 12 et les 12 étoiles est très significatif. Alors, on applique assez souvent ce verset à l'enfantement de Jésus, les douleurs de l'enfantement d'Israël à travers la naissance de Jésus. Mais Marie n'a pas souffert plus que quelqu'un d'autre, et ce n'est pas Israël. Marie, c'est une Israélite. Il est question ici de l'enfantement de l'Israël dernier, de l'Israël qui enfin remplira la vocation pour laquelle Dieu l'a choisi. Et ceci apparaît par la suite du chapitre, puisqu'au verset 6, on apprend que Satan est face à elle et attend pour dévorer l'enfant. Et puis, peu plus loin, je ne sais plus quel verset, mais peu importe, qu'elle doit fuir au désert, mais le verset 6, je crois 6 le dit déjà, elle fuit au désert où Dieu lui a préparé un lieu afin qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Il y a des chiffres symboliques dans le livre de l'Apocalypse, très, très vraisemblablement, même sans aucun doute. Le chiffre 4, le chiffre 7, etc. Mais que dire de ces 1260 jours? Je voudrais dire simplement qu'on le retrouve dans le contexte presque immédiat, mentionné comme 42 mois, ou encore comme 3 ans et demi, 3 années et une demi-année. Cela, cette répétition et cette façon de le dire différemment, me semble aussi empêcher de croire qu'il y a là des chiffres uniquement symboliques. et que ça ne puisse pas être effectivement 3 ans et demi. Et pendant des siècles, et je crois jusqu'à présent au moins certaines, les églises ont considéré qu'il s'agissait de la moitié de la dernière semaine de l'histoire, c'est-à-dire les 3 ans et demi de grande tribulation. On attend une semaine d'année de tribulation, mais divisée en deux. Et on considère, de façon générale, je crois que ça n'a pas trop été abandonné, que la dernière moitié de la semaine, la deuxième moitié de la semaine, sera la grande tribulation. Grande tribulation, qu'en dire? Pas grand-chose sans doute. Sinon, qu'Israël souffrira plus que nous les chrétiens. Oui, j'aurais peut-être pas dit ça parce que vous posez une question que je n'avais pas l'intention d'aborder. Mais disons-le en passant. Depuis la fin du XVIIIe siècle, on a adopté dans les églises évangéliques une doctrine qui ne me semble pas biblique du tout, celle d'un enlèvement de l'Église 7 ans avant le retour glorieux du Seigneur. La Bible ne l'enseigne pas du tout, elle enseigne au contraire que sa venue, c'est après la tribulation, au moment où il vient délivrer Israël et instaurer son règne. Mais je n'avais pas l'intention de l'aborder, seulement j'en ai trop dit pour me taire. Vous auriez posé des questions. L'avenir d'Israël est donc un avenir exprimé en ces quelques mots, l'enfantement, les douleurs de l'enfantement. Mais c'est ici que j'en viens maintenant à mes deux textes dont je vous ai dit il m'a fallu du temps pour les comprendre et plus de temps encore pour les associer. Et cela parle de l'espérance, mais une espérance qui traverse, une fois de plus, la douleur. Au verset 8 de Zacharie 13, si je ne me trompe, après avoir dit, versets 8 et 9, « J'exterminerai du pays les noms des idoles afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. » Dieu ajoute, donc au verset 8, « Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2/3 seront exterminés, périront. » 2/3. 2/3. C'est pas rien. Et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers qui reste dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. C'est la conversion d'Israël. Mais vous l'avez vu, le fruit d'un tri redoutable et terrible. 2/3 périront. C'est à l'occasion de tout ce que l'Apocalypse rapporte, des différents jugements qui fondent sur le monde et principalement sur le Moyen-Orient, car c'est là que tout va se jouer, vous l'avez compris. Je l'éprouverai, il restera 1/3. Et ce tiers-là, c'est encore trop. Je vais l'éprouver, je vais le passer au crible. Et nous avons donc là le récit en peu de temps de la manière dont Dieu enfante quoi? Un reste, un résidu. Mais c'est sa conversion qui permet à l'apôtre Paul de dire en Romains 11, et là, alors tout Israël sera sauvé. Mais c'est un tout Israël restreint. C'est un résidu entier, et même moins d'un tiers. Un tiers éprouvé, ce qui restera. Mais c'est pourtant l'espérance. Car quel est le rôle de ce tiers? J'ai parlé de comparer le texte Zacharie avec celui d'Ésaïe, de Zacharie et d'Ésaïe. Ésaïe parle effectivement au chapitre 66, le dernier du livre, il est facile à se souvenir, c'est la fin, c'est le dénouement, c'est aussi la fin de l'histoire. Ésaïe 66 parle au verset 19 du rôle missionnaire d'Israël. Et cela nous reporte à ce que nous disions au début, à Genèse 12, 3, à Genèse 22, 18, à la promesse de la bénédiction de toutes les familles de la terre à travers Abraham, Isaac, Jacob et leur postérité. On va lire ce texte. Toutes les nations bénies en toi, en ta postérité, devient, dans la promesse d'Ésaïe 66, j'enverrai leur réchappé. C'est là ce qui m'est apparu comme la relation avec ce que dit Zacharie, un tiers éprouvé. Il y a des réchappés, mais ces réchappés vont accomplir, pas tout à fait tout seul, on verra dans un moment, la vocation initiale d'Israël. La vocation apportée à Abraham, son fils, à son petit-fils et à leur postérité. Allez vers toutes les nations. C'est ce que dit Ésaïe 66, verset 19, « J'enverrai leur réchappé vers toutes les nations. » Et au verset 20, « Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel. » Ah, il y a tout de même un peu plus que le reste. « J'amènerai » Ils amèneront ce réchappé, ce groupe d'Israël réchappant au jugement. On ne l'a pas toujours compris. Mais il s'agit ici, dans Zacharie, des Juifs rentrés dans leur pays, ceux qui y sont maintenant. Ce sont eux dont il est dit que deux tiers périra et qu'un tiers sera passé au crible, à l'épreuve. Mais ce tiers maintenant converti, qui dira « L'Éternel est mon Dieu » et dont Dieu dira « C'est mon peuple », a une vocation missionnaire depuis le début. Je pensais le citer avant, mais ce n'est pas trop tard. Quand Dieu parle à Moïse du rôle qu'aura Moïse, il dit, voilà ce que tu diras au peuple d'Israël, à mon peuple, tu lui diras que je veux faire de toi un peuple saint, un peuple de sacrificateurs. Quel est le rôle du sacrificateur? C'est celui qui parle de Dieu, qui parle de Dieu au peuple et qui parle au peuple, à Dieu du peuple. C'est l'intercesseur qui prie, qui apporte son peuple pour réclamer son pardon. C'est le rôle du sacrificateur. Et c'est celui qui, en même temps, est le garant et le porteur de la parole de l'Éternel. Et ça, c'est le rôle prévu par Dieu depuis le début. C'est ce qu'il dit à Moïse, faire du peuple d'Israël un peuple de prêtres, un peuple sacrificateur pour le monde entier. Oh, je sais bien que on a oublié tout ça, ou qu'on n'a pas envie de le savoir. Mais les textes de la Bible parlent d'eux-mêmes. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel. C'est la suite de ce verset, de ce chapitre 66 d'Ésaïe. Je les envoie. Comment appelle-t-on celui ou ceux que Dieu envoie? Quel nom leur donne-t-on? Ceux que Dieu choisit pour les envoyer. Enfin, ce n'est pas que vous n'avez plus la parole, mais peu importe, vous le savez, n'est-ce pas? On les appelle des apôtres. Eh bien, le réchappé d'Israël est appelé des apôtres. Il envoie. Dieu les envoie. Et il les envoie pour ramener au pays, comme offrande à l'Éternel, les Juifs encore dispersés dans toutes les nations. Voilà ce que fera le résidu sauvé, converti d'Israël. Quand? Je n'en sais rien. Mais je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire montre que nous sommes sans doute proches, assez proches, de ce jour béni qui est l'espérance. Un avenir, oui, un avenir, il n'est pas rejeté. Un avenir difficile, un avenir douloureux, un enfantement et un difficile enfantement. Mais ce nouveau peuple qui naîtra de cet enfantement douloureux sera l'apôtre. Il y en avait 12 au temps du Christ. Il en a choisi 2. Pourquoi 12? Parce que 12 est le chiffre qui indique Israël. C'est le chiffre d'Israël. Et pourquoi 12? Pour ça. Mais il y aura un prophète supplémentaire. Les 12 seront là. Ils seront ressuscités. Mais c'est avec le peuple ramené de tous les endroits où il était dispersé et dont il n'était pas encore revenu, c'est ceux-là que le peuple trié, purifié, le résidu fidèle apporte à l'Éternel comme une offrande. Et c'est pour que tout le peuple devienne enfin ce pourquoi il a été choisi, un peuple de sacrificateurs. Le Nouveau Testament confirme tout cela. Exode 19:6, un peuple de sacrificateurs se retrouve mentionné par l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 2, où il l'appelle une race élue, une nation sainte, bon, c'est pas grave, un peuple acquis. Vous savez ce que c'est qu'une acquisition? C'est faire quelque chose de sien, et d'habitude, on l'achète. Et vous savez, pour ce qui est d'Israël, à quel prix Dieu l'a acheté, un peuple acquis. Il sera ce peuple. Et il sera le missionnaire envoyé par l'Éternel. J'ai dit que tout cela conduirait à ce fameux « Tout Israël sera sauvé », Romains 11, verset 26. Mais puisque on en vient à Romains, et ce sera ma conclusion à travers cette dernière pensée, Romains 11 commence comme la Bible a commencé. La Genèse dit le choix d'Israël, d'Abraham, d'Isaac, Jacob et la postérité pour servir de bénédiction au monde entier. Ben, Romains 11 ne dit pas autre chose. Au verset 2, il dit Dieu a-t-il rejeté son peuple? Et il ajoute, non, jamais de la vie. L'expression grecque est difficile à traduire, mais ce qui me semble la rendre le mieux, c'est cette expression de, mais jamais de la vie. Il n'en est pas question, dirions-nous peut-être aujourd'hui. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et l'argument qu'apporte Paul, ce n'est pas un argument compliqué. Il dit, moi aussi, je suis israélite. Donc, il y a au moins un reste. Et d'ailleurs, c'est pour introduire la mention du reste pendant plusieurs versets jusqu'au verset 10. Dieu, de tout temps, s'est réservé un résidu fidèle. Il mentionne les 7000 du temps d'Élie. Et c'est pour arriver au verset 11. Lui aussi a, à mes yeux, une grande importance. Il le commence de la même façon que le premier verset. Je dis donc, autrement dit, c'est le résultat de tout ce qu'il a déjà mentionné. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont trébuché? Jamais de la vie, de nouveau cette fameuse expression, qu'un signe advienne. Mais par leur trébuchement, le salut est devenu accessible aux païens. Je me suis arrêté, le verset ne s'arrête pas. Afin qu'ils fussent excités à la jalousie. En m'entendant insister sur le fait que c'est Israël, ce résidu fidèle, qui est responsable de porter la connaissance de l'Éternel au monde entier, c'est Isaïe 11, pas la connaissance de l'Éternel couvrira les peuples, les nations, comme le fond de la mer est couvert par l'eau. Comme le fond des océans est couvert par l'eau, la connaissance de l'Éternel répandue. C'est le rôle d'Israël. Mais alors, si c'est le rôle d'Israël, je suis perturbé là. Et le rôle de l'Église, alors, là-dedans? Eh bien, ça vous plaira pas, peut-être pas, mais l'Église existe aujourd'hui et est née au premier siècle de notre ère, en faveur d'Israël. Dieu a en quelque sorte accompli son projet de bénédiction pour toutes les nations avant son temps pour susciter la jalousie d'Israël, amener Israël à chercher Dieu. Mais pour ça, il fallait qu'il voie chez les nations ce que cela changerait pour eux aussi. Or, quelle a été la manière d'agir de l'Église, je devrais dire la pseudo-Église? On les a persécutés. Au nom de Jésus, on a volé leur rôle, leur vocation. Avec la doctrine née au IIIe siècle, donc c'est pas tout nouveau, tout neuf, avec la doctrine de l'Église remplace Israël. On leur a volé leur rôle, on leur a volé leur bénédiction. On prétend que tout ce qui est bénédiction dans l'Ancien Testament, c'est pour l'Église, mais que la malédiction, ça c'est pour eux, bien entendu. Ce ne serait pas très agréable de les prendre pour nous. Bon. Le rôle de l'Église était d'amener les Juifs à avoir envie de connaître Jésus-Christ, leur salut, leur sauveur. Parce que le Christ, ne l'oubliez pas, est venu pour Israël. Quand l'ange parle à Joseph, qu'est-ce qu'il lui dit ? Tu l'appelleras Jésus, parce que c'est lui qui sauvera tous les gens de la terre. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui, mais Israël a rejeté son Messie. Alors, c'est normal que Dieu le rejette. Sauf que, pour cela, il faut oublier la prière de Jésus au moment où il est exécuté, crucifié, que dit-il ?
C'est l'église de l'Angèle, l'église de Léo.
Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'il
fait. Rarement, il a.
Alors, ou bien, peut-être que Jésus se faisait illusion un peu avant, c'est rapporté au chapitre 12 de l'évangile de Jean, quand il dit dans une autre prière à son Père, qui a précédé celle-là donc, quand il dit, « Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » Ah oui, mais il s'est trompé sans doute. Dieu ne l'a pas exaucé, il n'a pas pardonné Israël, il l'a rejeté. J'ai commencé en disant qu'il ne l'a pas rejeté. Donc, il ne l'a pas rejeté. Ce qu'il a promis, il va l'annoncer. Et c'est une promesse de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Alors, mon dernier mot, cette fois-ci c'est vraiment le dernier. Enfin, c'est un peu plus d'un mot quand même. C'est Matthieu 25. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il y a dans Matthieu 25? Oui, je pense que vous en souvenez. C'est un texte très souvent cité maintenant pour dire qu'il faut s'occuper des plus petits, des pauvres, parce que ce qu'on fait aux malheureux, aux pauvres qu'on visite, qu'on soutient d'une manière ou d'une autre, c'est à Jésus qu'on le fait. Mais j'ai oublié que Jésus le Juif dit en Matthieu 25, ce que vous ferez ou ne ferez pas à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait ou pas fait. Mais les frères, le mot frère est employé par Jésus à une époque où on était loin d'appeler en Israël quelqu'un frère s'il n'était pas un autre juif. Les frères, pour Jésus et pour ceux qui l'écoutaient quand il a prononcé Matthieu 25, ce sont des juifs. Ne l'oublions pas et n'essayons pas de tricher. Il a fallu des décades, des décennies, je crois que c'est plutôt que je veux dire des décennies, mais c'est la même signification, avant que les chrétiens, juifs ou pas, s'appellent frères les uns les autres. Ce n'est pas le cas quand Jésus parle. Donc Jésus parlait des juifs quand il a dit « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce que vous n'avez pas fait pour l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. »